Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 17 mars 1987.
position et surtout vis-à-vis de la justice. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vertu? Elle s'acquiert à partir d'actes justes. L'acte juste est un acte volontaire qui implique donc un amour à l'égard des droits.
Je crois qu'on
ne découvre la personne de l'être humain qu'en l'aimant. Et donc, cette altérité avec son droit à exister présuppose un certain amour. Cet amour à l'égard de tous les hommes, la philanthropie. J'aime l'homme. Et là, il y a un appétit naturel d'aimer l'homme. D'aimer l'homme comme homme, c'est-à-dire comme personne humaine, qui a ce droit fondamental au respect. Ça, c'est très important aujourd'hui de nous le rappeler. Parce que facilement, on ne respecte que celui qui a un pouvoir, celui qui risque de me dominer. Ce respect-là n'est pas le respect dû à la personne humaine. Si je respecte que celui qui a un pouvoir, je ne respecterai pas l'autre dans sa fragilité. Je dois donc respecter l'autre comme autre. Et j'allais dire, plus il est faible, plus je dois être attentif à le respecter comme autre. Plus il est puissant, je dois le respecter comme autre pour un autre motif. Il y a donc les motivations psychologiques qui sont très nettes. Certains êtres, parce qu'ils sont timides, et en raison de leur timidité et de leur faiblesse, respectent celui qui a un pouvoir. Et il y a d'autres motivations pour celui qui est instinctivement miséricordieux et généreux, qui respecte le fait. Tâtez-vous le pouls pour savoir où vous situez. Et vous verrez si vous avez de la générosité en trop plein ou si vous avez au contraire une fragilité en creux. Ça, c'est en psychologique, hein, les motivations. L'acte de justice n'est pas déterminé par une motivation. Il est déterminé par quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est justement de reconnaître dans la personne humaine quelqu'un autre que moi et que j'admets comme autre que moi. Vous voyez, le jugement d'existence est présent dans l'acte de justice. Reconnaître l'autre comme tel. Et ça va très loin, l'acte de justice, à ce point de vue-là. C'est dans l'ordre pratique, reconnaître l'autre comme autre, dans son altérité, dans son individualité et sa personnalité, sans savoir exactement ce que c'est que la personne et l'individu. Ça n'a pas d'importance. Je le reconnais comme autre. Ça, c'est premier. C'est un acte, j'allais dire, humainement très grand, puisque c'est accepter que l'autre passe devant moi. C'est ça le respect. Et le respect à l'égard de l'autre, le respecter comme autre, c'est le saluer. Et donc c'est le laisser passer devant moi, même si ça me gêne. Je dépasse tout ça. Bien, il faut bien reconnaître que reconnaître le droit fondamental de l'autre à exister, à être ce qu'il est, c'est un acte qui se réalise au plus intime de ma volonté et qui rectifie ma volonté, qui implique le point de vue de la connaissance, puisqu'il faut connaître l'autre, qui implique un jugement d'existence et un jugement d'existence affectif. Il faut aimer l'autre. Et que cet acte se réalise dans la lutte. C'est un acte à la fois très naturel. C'est naturel de respecter l'autre. Et de le respecter comme autre. Puisque en le respectant comme autre et en reconnaissant son droit, je reconnais mon droit à exister, à être. Et à être distinct des autres. Et c'est en reconnaissant le droit de l'autre que je découvre mon droit. Donc c'est un acte foncièrement naturel. Cet acte de justice. Mais il faut bien reconnaître que cet acte n'est pas commode à poser. Qu'il y a à l'intérieur de moi-même un égocentrisme qui n'est pas mon droit, qui fait que facilement, si j'écoute mes passions, si je me laisse aller à l'imaginaire, je me place devant l'autre. Et c'est moi que je regarde en premier lieu, et je regarde l'autre en fonction. Oui, c'est cette très grande question au plan philosophique qui est l'amour de soi et l'amour de l'autre. C'est très très fondamental ça. Et c'est très intéressant à bien voir. L'amour de soi est-il premier? L'amour de l'autre est-il premier? L'amour de soi implique une certaine connaissance de nous. Et l'amour de l'autre implique une certaine connaissance de l'autre. Est-ce que la connaissance de l'autre est antérieure à la connaissance de moi? Est-ce que l'amour de l'autre est antérieur à l'amour de moi? C'est des questions extrêmement intéressantes et très fondamentales dans l'ordre de ce que représente l'acte moral, juste, respecter l'autre, implique-t-il le respect de soi? Ou est-ce que c'est le respect de l'autre qui me fait découvrir le respect à l'égard de moi? Ça, il faut réfléchir là-dessus. Et c'est pas si commode. Je vous demanderai pendant un quart d'heure d'écrire là-dessus. On aurait des résultats assez curieux. C'est un problème très fondamental, c'est au point de vue éthique. Parce que c'est tout le problème de la justice. Et c'est tout le problème de l'égocentrisme. Vous avez tous une propension, c'est pas la peine de la cacher. Vous avez tous une propension extraordinaire, et je l'ai aussi, de considérer que moi, je suis premier. C'est pas étonnant, hein? Je ne me quitte jamais, tandis que de temps en temps, je vous quitte. Et même si vous êtes très proche de quelqu'un qui est votre voisin, de temps en temps, vous le quittez, du moins j'espère, pour retrouver une solitude, le besoin du désert. Alors, ça, c'est une attitude religieuse, j'ai besoin d'adoration. Oh, oui, c'est très vrai, ça, c'est très vrai. Et c'est peut-être ça qui va me faire comprendre quelque chose de très particulier, le désert, me retrouver seul. C'est reconnaître les droits souverains de quelqu'un d'autre sur moi. Alors là, on est tout de suite dans l'éthique religieuse. Et on n'en parle pas maintenant. Peut-être que c'est là la solution.
devais au moins poser cela. Reconnaître les droits souverains de Dieu sur vous, les droits souverains de votre Créateur sur vous, c'est ça qui vous conduit à la solitude et à l'adoration. Et l'adoration est une sorte de justice. Vous voyez, la justice, elle a des ramifications très profondes, puisqu'elle va fonder ce que représente ma relation à l'égard d'un autre, qui est l'autre par excellence, qui est quelqu'un par excellence, et vers lequel je suis relatif. Mais je laisse de côté ce problème pour le moment. Nous y reviendrons. Je regarde maintenant ce que représente l'acte de justice. L'acte juste qui consiste à respecter les droits de l'autre. Et je dis que pour respecter les droits de l'autre, il faut un certain amour. Cet amour que j'ai pour les autres, est-ce qu'il dépend de l'amour que j'ai pour moi ? Il y a des petites phrases d'Aristote qui sont intéressantes là-dessus, dans l'éthique, qui montrent que s'aimer, et saint Thomas reprend ça du reste, s'aimer d'une certaine manière est plus connaturel que d'aimer l'autre. Et d'autre part, aimer l'autre va me permettre de m'aimer d'une façon qui soit vraie. C'est pour ça qu'il y a là un aspect très curieux et très intéressant à voir. L'amour de soi et l'amour de l'autre qui fondent cet acte juste de respect à l'égard de l'autre et de respect à l'égard de moi. Et je vois que c'est très difficile à poser à cause de cet égocentrisme qui est dans l'ordre imaginatif, qui est de l'ordre passionnel. Il est bien évident qu'au point de vue de la sensibilité, et je dis bien au point de vue de la sensibilité, je suis plus présent à moi que l'autre est présent à moi. C'est bien évident. Et par le fait même, on dira qu'il faut d'abord se respecter et s'aimer. Oui, c'est très juste. Je suis plus proche, mais attention, comme je suis plus proche du côté sensible, du côté imaginatif, du côté passionnel, je risque toujours, en m'aimant, de m'aimer trop et de ne plus voir les autres. Et je comprendrai que m'aimer vraiment implique d'aimer les autres. Et que aimer les autres va devenir garant d'un véritable amour pour moi. Mais il y a comme une espèce de relation mutuelle entre les deux. Je ne peux pas séparer. Alors on touche quelque chose de très très fondamental du cœur de l'homme. Je ne peux pas séparer l'amour de moi et l'amour des autres. Il y a une espèce de réciprocité entre les deux. Et il y a une priorité génétique et une priorité de nature différente. Je m'aime, c'est normal. Quelqu'un qui ne s'aime pas, ça arrive. Peut-il encore aimer les autres? Est-ce que la condition sine qua non pour aimer les autres n'implique-t-elle pas de s'aimer? Mais cette condition sine qua non ne légitime pas une priorité absolue de l'amour sur soi. Pour s'aimer vraiment, il faut aimer les autres. Alors vous avez donc cette réciprocité entre les deux qui est très curieuse et qui est très intéressante. De voir lequel on doit aimer le plus, lequel on aime en premier lieu. et comprendre que cet égocentrisme qui provient justement de l'imagination, qui fait que facilement on s'enferme en soi, et en s'enfermant en soi, on n'aime plus que soi. Et au bout d'un certain temps, quand on n'aime plus que soi, on détruit l'amour véritable. Cet égocentrisme détruit l'amour et devient l'ennemi de l'amour. Alors que aimer l'autre va être gardien d'un véritable amour pour soi. Je crois que nous pouvons tous comprendre cela au niveau pratique, passionnel et imaginatif. Et c'est très important de comprendre cela. Parce que ça fait tout de suite comprendre la lutte dans laquelle on est pour pouvoir aimer l'autre. Celui que vous n'avez pas choisi, hein, c'est l'autre qui s'impose à vous. Je ne parle pas de l'amour d'amitié ici. Je parle tout simplement des rapports fondamentaux que nous avons avec l'être humain. Nous sommes à côté de quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Il est de l'appartement supérieur et moi je suis juste en dessous. Et mes relations avec lui sont quelquefois uniquement les bruits du soir où je l'entends se coucher très tard et faire des tas qui m'empêchent de dormir. Ça devient agaçant, terriblement agaçant. Et c'est cet aspect négatif qui l'emporte. Et je dis pourvu qu'il quitte cet appartement. Et je fais tout ce que je peux pour le remplacer par un autre. Ça arrive, ces choses-là. Et c'est les seules relations qui existent. Qu'est-ce qui commence à un égocentrisme? Je n'ai pas découvert l'autre. Je l'ai découvert que négativement. Alors que ce serait peut-être élémentaire, au point de vue humain, de le découvrir autrement. Vous voyez, notre humanité, elle est comme ça, le cloisonnement. Ça existe quelquefois même à l'intérieur d'une communauté religieuse. Ça existe comme ça. Alors, ce sont des appartements ambulants. Chacun est dans son appartement ambulant, puisqu'on a chacun sa cellule. Et au fond, on se rencontre toujours au mauvais moment. Il passe devant moi, il est assommant. Ou il rentre tard le soir en cellule, c'est assommant. Il me réveille chaque fois. Je le connais comme ça, négativement. Il faut réfléchir là-dessus. Parce que ça fait partie, vous voyez, de cette relation de justice qui est très fondamentale. La grâce ne supprime pas la nature. Et l'exercice de votre charité fraternelle doit dépasser toutes les injustices, dépasser toutes les oppositions, parce qu'il faut aimer ses ennemis. Mais autant que possible, il vaut mieux aimer ses amis. Et autant que possible, il faut éviter les inimitiés et les oppositions. C'est assainir le terrain, ça. C'est enlever les fièvres paludiennes. Parce qu'il y a des fièvres paludiennes dans une communauté humaine qui fait que tel, il ne m'a jamais parlé, mais il est insupportable. Je ne veux pas le supporter. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, ça c'est l'imagination. C'est la passion qui empêche de poser un acte de justice, de respect vis-à-vis de l'autre. Il faut bien comprendre ça. Et dans les retraites à Châteauneuf, où on restait en silence pendant toute la retraite, où on ne se connaissait pas, on voyait que les têtes. Et on entendait de temps en temps les voix. Dans le chapelet récité, ou l'office récité. Et on voyait les gens manger. Et boire. Et on se faisait des idées extraordinaires. Quand on n'était pas pris par le Seigneur et que l'imagination trottait. C'est très curieux, la connaissance de l'extérieur, vous voyez, qui ne peut pas poser un acte de justice. Tant que je connais quelqu'un d'extérieur, je ne peux pas poser un acte de justice. Alors, je suis dans l'ordre de l'affectivité imaginaire. Alors, il y a, tiens, telle personne, oh, ce que je voudrais la connaître, celle-là. Puis, le dernier jour de la retraite, parce qu'on peut parler, je me situe à côté d'elle. Puis, catastrophe, c'est pas du tout ce que j'avais pensé. Si votre ramage ressemble à votre plumage, n'est-ce pas? Vous êtes le roi, le phénix. C'est curieux, ça. Donc on voit très bien qu'il y a tout un aspect imaginatif et passionnel qui nous empêche d'atteindre l'autre en tant qu'autre. C'est-à-dire en tant qu'une personne que je respecte. Parce que le premier amour que j'ai pour quelqu'un, c'est un respect. Le respect à l'égard de l'autre, c'est un acte de justice. Et c'est très grand, ça. Lui permettre de passer devant moi. Tandis que quand je reste uniquement devant un aspect visible, d'apparence, je ne le respecte pas. Je l'aime en fonction de moi. Ça accroche. Ça n'accroche pas. Ça goûte ou ça ne goûte pas. C'est quelqu'un qui semble de l'eau pétillante, pour ne pas dire du champagne. Pour moi, c'est comme ça. Et au contraire, l'autre, c'est la douche écossaise. C'est comme ça quand je reste au niveau de la sensibilité passionnelle. Et donc, je ne découvre pas l'autre. Alors, je comprends qu'il faut une vertu. Ça s'acquiert progressivement. Il faut un habitus dans la volonté. Je dis bien dans la volonté, pas dans l'intelligence. Dans la volonté, c'est donc une question de connaissance affective. Et c'est la volonté qui me fait découvrir l'autre en tant qu'il est autre et qui fait découvrir ce droit foncier d'être autre. C'est naturel, ça. Je ne dis pas que c'est le droit naturel. Je ne parle pas de droit naturel, je parle tout simplement de ce droit personnel, individuel, qui est foncier et qui ne se découvre pas tout de suite. Je sens très bien que je dois découvrir ça. Si je suis un tout petit peu lucide, et donc lucide dans l'intelligence pratique, grâce à ma prudence, je vois que je n'ai pas le droit de me laisser prendre par ces premières impressions affectives, émotives que j'ai vis-à-vis de quelqu'un qui ne m'a regardé qu'une seule fois, mais qui est là à côté de moi et à qui je ne parle pas, et que je vois manger, que je vois regarder, que je vois prier. Je ne peux pas me laisser aller à ces premières impressions émotives, ni d'un sens positif, ni d'un sens négatif. Je dois aller plus loin. Je dois le connaître comme autre, dans son altérité. Vous voyez, la vertu de justice qui permet de dépasser tout ce conditionnement affectif que nous connaissons très très bien, sur lequel on pourrait parler très longtemps, parce qu'il est passionnel, imaginatif, et qui arrête l'acte de justice, qui empêche d'aimer l'autre dans son altérité. Je crois que c'est cela qu'il faut essayer de comprendre pour voir la naissance de cette vertu de justice. Alors, pourquoi il faut cette vertu de justice? Parce que justement, ma volonté n'est pas assez déterminée vers le bien de l'autre, vers son droit. C'est quelque chose de trop caché. Et que il y a toujours en moi, à cause des passions, à cause de l'imaginaire, la possibilité de m'arrêter en chemin et de ne pas le saisir vraiment dans son altérité et dans son droit personnel. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'actes successifs qui me fait regarder l'autre et l'aimer et le respecter. Je crois que ça, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental. Et ça implique la prudence. Tout acte de justice, dans son exercice, présuppose la prudence. C'est souverainement prudent pour moi de respecter l'autre. Alors je pourrais dire, c'est souverainement imprudent pour moi de ne pas respecter l'autre. C'est un argument qu'on peut servir pour des quantités de cas. Sans vous ne respectez pas l'autre. Et respecter l'autre, vous voyez, on essaiera de comprendre tout ce que ça implique de respecter l'autre. C'est pas seulement de ne pas le tuer. Tuer le plus faible, le plus fragile, le plus petit, c'est souverainement imprudent. C'est un argument, je crois, qu'on doit utiliser dans certains cas extrêmes. Parce que ça fait peut-être réfléchir. Qu'il y a comme une espèce de justice immanente. C'est très délicat, ça, à dire. Il y a comme une justice immanente qui est dite dans l'Écriture à propos du premier homicide. Le sang d'Abel crie. Le manque de respect à l'égard de l'autre fait que nécessairement ça va rejaillir sur vous. C'est ça que j'appelle cette justice immanente à l'intérieur de la justice. On est liés les uns les autres. On forme comme une personne humaine. On est les membres d'une même espèce. Et si on ne respecte pas l'autre, fatalement, on ne peut plus être respecté. Et non seulement on ne peut plus être respecté, mais on ne se respecte pas soi-même. Je crois que c'est la conséquence la plus directe d'un manque de justice grave. C'est du manque de justice pas grave, vous voyez. Il y a quelqu'un qui a oublié son chapelet dans un coin. Dit-il, il vous pose ce chapelet, je vais le prendre, je vais le dire. Bon, très bien. Vous utilisez ce petit instrument pieusement, bien que vous l'ayez volé, mais pieusement. Alors, comme la piété est utile à tout, on voit comment vous arrivez à faire ces petits larcins comme ça. Il y a des larcins pieux, c'est curieux. Font que quelquefois, c'est vrai, autour des bénitiers, quelquefois, il y a beaucoup d'injustice. Ça existe, ça. J'ai des gens très pieux. C'est ce qu'on dit ordinairement, que les religieux et les religieuses n'ont plus le sens de la justice aussi aiguisé que des hommes qui, quelquefois, ont beaucoup moins de piété. C'est très curieux, ça. Alors ça, c'est un autre point de vue. Mais ça fait partie, vous voyez, de cet aspect affectif qui nous enveloppe et qui nous empêche de découvrir le droit de l'autre. Parce que c'est vrai, l'affectivité de la piété, c'est très fort. Des dévotions, c'est très fort. Alors au nom de la dévotion, dans un pèlerinage, les gens oublient des tas de choses. Et vous êtes liés à ces gens, donc vous pouvez très bien vous en servir. Vous manquez à la justice. On voit ça aujourd'hui constamment. Vous égratignez en faisant une fausse manœuvre en auto, l'auto du voisin. Ni vu ni connu. Donc, injustice. Ce que vous n'aimeriez pas qu'on fasse ça à vous, c'est dit dans l'Évangile. Une grande règle d'or. Ne faites jamais aux voisins ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous. Alors quand c'est le bien commun de l'État, aussi pas le bien commun de l'État, mais quand c'est bien particulier, individuel, ça c'est différent. Bien commun de l'État, il a bon dos, il est anonyme, bien commun de l'État, et puis il est tellement bas, le bien commun de l'État, que un peu plus bas, un peu moins bas. Mais c'est quand même, on verra, il y a une justice par rapport à l'État. Alors je prends d'abord cette justice élémentaire à l'égard de l'autre. C'est très important d'avoir un sens aiguisé du respect de l'autre. Fondamental et de comprendre que si on manque de ce respect, il y a quelque chose qui rejaillit sur nous tout de suite. Parce qu'on est liés les uns aux autres. La justice, dans ce qu'elle a de tout à fait élémentaire et fondamental. Quand je dis élémentaire et fondamental, c'est-à-dire je dis ce qu'il y a de tout à fait principal. C'est ce lien qu'on a d'être de la même espèce et de se respecter parce qu'on est de la même espèce. Et alors, si on ne se respecte pas, ça rejaillit sur nous. Donc, la vertu de justice doit naître en nous pour permettre à notre volonté d'être déterminé vis-à-vis du droit de l'autre. La justice regarde donc ce droit foncier. Alors qu'est-ce que c'est que le jus ? Qu'est-ce que c'est que le droit ? C'est pas commun du tout à préciser. Les juristes parlent tout le temps du droit, mais on dit, on ne savent pas très bien ce que c'est que point de vue philosophique. Et j'avoue que c'est très difficile à bien préciser ce que c'est que ce droit. Et réfléchissez, on va essayer de comprendre ça, parce que si on ne comprend pas ce que c'est que le jus, le droit, on ne saisit pas vraiment ce que c'est que la justice. Respecter le droit de l'autre et respecter tous les droits de l'autre. J'ai parlé d'automobile tout à l'heure. C'est le droit de propriété. Vous avez le droit d'avoir une voiture, pas vous, mais le voisin. Il a le droit d'avoir une voiture. C'est un droit. Le droit de propriété. Si cette voiture, il l'a acquise vraiment par son travail, par son bien, ou bien qu'on lui a donné. Parce que c'est quelquefois, les gens vous donnent des choses et par le fait même qu'ils vous communiquent leurs droits, ça vous appartient. Qu'est-ce que c'est le droit de propriété ? Qu'est-ce que c'est que le droit fondamental que j'ai d'exister ? J'ai un droit à l'exister. J'ai un droit à vivre. Et j'ai un droit à vivre de façon telle que si je meurs de faim, pour une raison ou pour une autre, si je meurs de faim et que je vois à côté de moi du raisin dans le champ, j'ai le droit d'aller prendre ce raisin qui ne m'appartient pas pour que je puisse ne pas mourir. Faut être vraiment dans un état extrême. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit ? Qu'est-ce que ça représente, ce droit ? Je crois que c'est toujours lié à la personne. Est-ce qu'une vache a des droits ? Vous vous posez la question. Elle a un droit. Comme individu, est-ce qu'elle a des droits ? Je crois pas. Je crois que l'animal n'a aucun droit. L'animal a des droits le jour où Il est la propriété d'un homme. Alors, le droit de propriété rejaillit sur la vache. Cette vache appartient à tel individu. Et parce qu'elle, cette vache appartient à tel individu, vous n'avez pas le droit de vous mettre à la traire. Ça va, elle est là. Tous les matins, on dirait le petit panier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce droit qui touche la personne? Vous voyez, c'est le problème de la personne humaine. La personne humaine, elle a cette possibilité d'être dominant soui. Elle a ce caractère de pouvoir se dominer, s'organiser, s'orienter. C'est le propre de la volonté, ça. Et elle a ce caractère-là grâce à l'esprit et grâce à sa subsistance. Grâce à son autonomie dans l'ordre de l'être, elle peut s'orienter comme elle veut. Et c'est cette relation qui existe entre cette volonté de pouvoir s'orienter vis-à-vis de sa fin et de ce que je suis moi-même, qu'on peut dire qu'il y a un droit. On va préciser ça la fois prochaine. Mais réfléchissez-y, surtout ceux qui ont fait du droit. Réfléchissez un peu sur ce que c'est que le ius au plan philosophique. Qu'est-ce que c'est que cette qualité particulière de la personne humaine qui a un droit à exister? Vous le dites tout le temps, j'ai le droit à exister. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites ça? Qu'est-ce que ça représente, ce droit à exister? Bon, qu'est-ce que ça représente, le droit de propriété? Parce que ça vient immédiatement après. Et ce sera tous les droits que la justice va respecter. Et en fonction de la diversité des droits, il y aura diversité d'exercice de la justice. Et on pourra donc préciser les différentes ramifications de la justice. C'est pas simple du tout, la justice. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus.